Bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin.
Paix intérieure.
Paix intérieure ? Ah d'accord, ok. Mon ventre est déjà super, super pacifique. Alors faut juste en fait que tout le reste en fasse autant. Hé hey, la paix, viens là que je te cause.
Oubliez vos images de Bouddha potelé et souriant qui vous promettent une vie faite de calme et sereine contemplation. Cessez vos exercices de méditation zen censés vous guider vers la paix intérieure avant d'aller travailler. Écartez vos désirs d'anesthésie et de dévotion béate pour échapper à ce monde cruel. Le bouddhisme n'est pas une fuite, mais une invitation à regarder bien en face les souffrances et le malheur. Éveillez-vous. L'équipe des Nouveaux Chemins chemine quotidiennement dans la lucidité en compagnie de Marianne Chassor, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Antoine Ravon, avec Média Portiguerin cette semaine à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour sa méditation de papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui on va méditer sur des machines dans la tête, c'est le titre de l'essai d'Anne Coquelin qui est paru aux éditions PUF.
Rendez-vous à 10h51. Après le taoïsme lundi, en compagnie de Rémi Mathieu. Après le confucianisme hier, avec Alexis Lavis. Et avant la pensée chinoise contemporaine demain, grâce à Joël Toraval, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour notre troisième étape dans l'exploration des philosophies chinoises, Éric Romeluer, qui vient vous initier à la pratique du bouddhisme zen. Bonjour à vous Éric Romeluer.
Bonjour Adèle.
Je crois qu'une conception du monde est une construction intellectuelle, capable de résoudre, d'après un principe unique, tous les problèmes que pose notre existence. Elle répond ainsi à toutes les questions possibles et permet de ranger, à une place déterminée, tout ce qui peut nous intéresser. Il est bien naturel que les hommes tentent de se faire une semblable représentation du monde et que ce soit là un de leurs idéaux. La foi qu'ils y ajoutent leur permet de se sentir plus à l'aise dans la vie, de savoir vers quoi ils tendent et de quelle façon ils peuvent utilement placer leurs affects et leurs intérêts. Si c'est bien là ce qu'on entend par ces mots « conception de l'univers », la réponse serait facile en ce qui concerne la psychanalyse. L'analyse n'est nullement capable de créer une conception particulière du monde, elle doit se conformer à celle que lui offre la sienne et la science. Il est inadmissible de prétendre que la science n'est que l'une des branches de l'activité psychique humaine et que la religion et la philosophie en sont d'autres, au moins aussi importantes. De cette façon, science, religion et philosophie auraient des droits égaux à la vérité et tout homme pourrait librement établir ses convictions et placer sa foi. C'est là une opinion jugée extrêmement élégante, tolérante, large et dénuée de préjugés mesquins. Malheureusement, elle s'avère insoutenable, et c'est à elle qu'incombent tous les méfaits d'une représentation anti-scientifique de l'univers. La vérité ne peut pas être tolérante, elle ne doit admettre ni compromis, ni restriction. Pourquoi commencer avec un texte de Freud, Éric Romeluer, dans une émission consacrée au bouddhisme? Alors, un extrait de la nouvelle conférence sur la psychanalyse de 1933. Peut-être tout simplement parce que le bouddhisme n'est pas une conception du monde telle que l'a défini Freud.
Tout à fait. Mon travail depuis quelques années, c'est d'essayer d'entrer en contact avec cette tradition qu'on appelle le bouddhisme. Non seulement de la comprendre, mais de la vivre. Et je pense qu'il y a de nombreuses mécompréhensions. Et Ce texte de Freud m'a beaucoup parlé. Il répond à une question, est-ce que la psychanalyse est-elle une représentation du monde? Donc sur un texte de 1932. Et il bifurque un moment, donc il répond, non, la psychanalyse n'est pas une représentation du monde. Et il bifurque sur la question des religions. Et il dit, les religions sont des représentations du monde. Et il donne vraiment cette définition. Alors je reprends peut-être une autre traduction. Une représentation du monde est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de notre existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout, où par conséquent, aucun problème ne reste ouvert et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place déterminée. Il lui dit, les religions ont cette dimension d'être cette construction intellectuelle qui résout tous les problèmes d'existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout. Pour beaucoup de gens qui connaissent peu le bouddhisme, ils vont dire, le bouddhisme est correspond tout à fait à cette définition. Les hypothèses, quelles sont les hypothèses? Les hypothèses, c'est ce que nous appelons dans le bouddhisme les termes sanskrits, le karma, le samsara, l'agir et le devenir. Autrement dit, les êtres sont plongés dans le cycle des renaissances dans lequel ils vont expérimenter, selon leurs actes, différentes vies qui peuvent aller des enfers au paradis. Donc on a cette impression qu'effectivement, il y a une hypothèse, parce qu'il y a une représentation du bien et du mal. Mais si on reste vraiment à distance du bouddhisme, on va le comprendre comme étant une hypothèse. Et tout mon travail, c'est d'essayer de montrer que le discours du bouddhisme, le discours du Bouddha, n'est pas on pourrait dire une conception du monde, une vérité métaphysique, mais que c'est autre chose.
Et ce n'est pas non plus une religion.
Alors c'est un débat dans lequel je ne voudrais pas rentrer, parce que justement, toute la question pour les Occidentaux qui découvrent cette tradition, c'est qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on appelle le bouddhisme? Et on essaye de toujours le saisir à partir de nos représentations. Donc certains vont dire, ah, il y a des éléments philosophiques, d'autres des éléments religieux. Si on est dans cette optique, je pense qu'on ne peut pas toucher l'essence même de ces enseignements et qu'il faut se garder d'entrer dans ce débat.
La question mérite quand même d'être posée parce que lorsqu'on fréquente, même de loin, en tout cas peut-être moins assidûment que vous pouvez le faire, les textes qui sont jugés centraux dans l'enseignement du bouddhisme, la question se pose puisqu'il y a certaines choses que l'on pourrait appeler concepts qui reviennent, une certaine, alors peut-être pas conception du monde, mais certains termes qui véhiculent un positionnement par rapport à notre existence et la question même de la foi peut revenir. Est-ce que le bouddhisme, les textes, nous donnent à croire à quelque chose ou pas du tout? Il me semble que ce n'est pas simplement faire un pas de côté et parler d'autre chose que du bouddhisme que de poser ces questions-là.
Alors, la question de la croyance est fondamentale, puisqu'en fait, tout le propos du bouddhisme, ou ce que nous appellerions le dharma, parce que déjà dire bouddhisme, à mon avis, oriente complètement la vision de ces pratiques, de ces enseignements. Il y a comme une sorte de rupture avec la question de la croyance. Je pense que fondamentalement, le bouddhisme, ses enseignements, posent la question: pourquoi avons-nous besoin de croyances? L'être humain vit à travers des représentations, à travers des croyances, des systèmes qui nous donnent du sens. Et le bouddhisme va dire finalement, le sens, c'est, pour reprendre un terme qu'utilisaient des philosophes français comme Bergson ou Yankevitch, ce sont des organes obstacles. C'est à la fois ce qui nous permet de vivre dans le monde, mais qui en même temps nous barre l'accès à la réalité. Et que ces représentations ne sont pas simplement des organes obstacles, mais qu'elles sont aussi source, on pourrait dire, de souffrance. Il faudrait développer. Et donc la question, c'est de dire, pouvons-nous vivre quelque chose d'autre au-delà de nos représentations? Donc cette question de la croyance est vraiment un point d'accès fondamental. Donc quand je dis effectivement, je reprends cette citation de Freud, c'est de dire, est-ce que finalement le bouddhisme propose-t-il des croyances. Pour moi, il ne propose pas des croyances, il propose l'interrogation. Pourquoi avons-nous besoin de croyances ?
Et c'est en cela qu'il peut être considéré comme un geste extrêmement philosophique, puisqu'il invite à ouvrir les yeux avec une grande lucidité sur l'existence pour y reconnaître la part de souffrance et même de malheur qui est absolument inévitable dans l'existence.
Tout à fait, tout à fait. Je pourrais dire que nous appelons le... Alors je dis nous parce que je me considère comme un disciple du Bouddha.
Alors voilà, je ne vous ai pas présenté, parce que vous m'aviez dit avant l'émission qu'en tant que bouddhiste, vous ne pouviez pas être présenté car vous ne pouviez pas avoir des adjectifs ou des qualités accolées à votre être.
Oui, alors vous m'invitez parce que j'enseigne le bouddhisme, parce que j'écris des livres, mais pour moi, ce qui est important, c'est comment se présente-t-on et comment se représente-t-on ? Et le bouddhisme est vraiment sur cette question. Est-ce que je vais utiliser mon syndrome narcissique, où je voudrais être présenté de la meilleure façon qu'il soit ? Ou est-ce que je peux dire simplement « je suis tel que je suis » ? C'est ça que dira un pratiquant bouddhiste. Alors, c'est difficile de dire « il est ce qu'il est ». Donc, on a besoin de représentation pour entrer en contact. Donc, pour nous, la représentation doit toujours être un moyen habile, mais ne doit pas, on pourrait dire, conforter ni mon besoin de séduction, ni votre besoin d'être séduit.
Voilà, et on a toutes les missions pour essayer de déconstruire les idées reçues qui sont très nombreuses hein, autour du bouddhisme. Je rappelle que quand même, je le dis, que vous venez de faire paraître au Seuil, S'asseoir tout simplement, l'art de la méditation zen, qui est un livre passionnant parce que là aussi, il nous dit ce que nous n'avons encore pas entendu sur ce qu'est la méditation zen, bien différente de ce qu'on croit, on l'entendra plus tard. Et puis aussi, le bouddhisme n'existe pas au titre provocateur, mais assez justifié, hein, toujours au Seuil. Alors on va entendre un texte tout de suite, un extrait de la Sutra de la liberté inconcevable. Les enseignements de Vimalakirti, vous nous direz qui est, et surtout, écoutez bien ce texte, car il permet de définir ce qu'on entend par le fait de renoncer au monde. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une certaine manière d'être au monde. Écoutez, c'est interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin.
Je me souviens qu'un jour, les jeunes nobles de Vaishali s'approchèrent de moi. Ils me saluèrent avec déférence et me demandèrent « Ô Rahula, vous qui êtes les fils du Bouddha, vous avez renoncé à la royauté d'un souverain universel pour embrasser la vie religieuse. Nous voulions vous demander quel intérêt présente le renoncement au monde. Comme je leur exposais, selon Dharma, l'intérêt et les vertus du renoncement au monde, voilà qu'apparut Vimalakirti qui me dit « Ô Rahula, vous ne devriez pas exposer l'intérêt et les vertus du renoncement au monde. » Parce que renoncer au monde ne présente aucun intérêt et n'a pas la moindre vertu. Des phénomènes conditionnés, on peut dire qu'ils représentent tel ou tel intérêt et ont telle ou telle vertu. Or, le renoncement au monde est un phénomène inconditionné, et les phénomènes inconditionnés ne présentent aucun intérêt et n'ont pas la moindre vertu. Celui qui renonce au monde n'est plus contrarié par les siens. Il se dégage de tous les actes troubles et élimine les voies extérieures. Il va au-delà des désignations conventionnelles, s'extrait de la fange et n'a plus attache ni lien. N'ayant plus de mien, il ne se résigne plus à rien. Libre de la confusion, il ne se contient plus de joie et, dans le respect de la pensée d'autrui, il suit l'ordre des concentrations et des recueillements jusqu'à l'entière disparition des imperfections les plus subtiles. S'il en est ainsi, on est en présence du véritable renoncement au monde.
Éric Rommelieur, peut-être un mot sur ces enseignements de Vimalakirti qui sont incontournables dans le cadre de l'enseignement bouddhiste.
Oui, merci beaucoup d'avoir cité cet extrait. Entrer en contact avec le bouddhisme demande des efforts. Les textes, donc c'est des traditions qui ont produit de nombreux textes, une littérature extrêmement abondante, et qui demande pour entrer en contact avec elle beaucoup d'efforts. Ce texte, qui s'appelle le Sutra de Vimalakirti, est un des textes les plus radicaux de toutes les traditions bouddhistes. Il est merveilleux et je trouve que c'est un des textes les plus accessibles pour nous, car il a cette particularité d'être construit comme un roman, avec une narrativité, avec une sorte d'énigme, puisqu'il y a un héros qui s'appelle Vimalakirti, qui est un disciple, on ne sait même pas s'il est un disciple du Bouddha, il est tellement extraordinaire, qui est là et qui fait semblant d'être malade. Et pendant tout le texte, le Bouddha va demander à chacun de ses disciples d'aller l'interroger. Et notamment, là, dans cet extrait, c'est Rahula, c'est-à-dire le fils du Bouddha, l'interroger. Pourquoi est-il malade?
Et personne ne veut y aller.
Et personne ne veut y aller, parce qu'à chaque fois, il donne toujours des vérités métaphysiques, d'une certaine manière. Et il leur dit... vous vous trompez complètement. Jusqu'au moment où il y aura un disciple qui va se rendre avec beaucoup de truculence, parce qu'il est le seul à vouloir y aller, et tout le monde se précipite dans la chambre de Vimalakirti, où on dit que 84 000 personnes entrent dans une petite chambre. C'est assez extraordinaire, là aussi. Et il donne cette réponse qui est la clé. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades. Et là, on touche quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que la proposition même de ces enseignements, c'est de résoudre la question de la maladie qui serait, on pourrait dire de notre point de vue, celle de notre névrose fondamentale.
Voilà, il dit ceci, « Mon mal vient de l'ignorance et de la soif. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades. Et mon mal ne cessera que le jour où tous les êtres seront guéris. Pourquoi ? Parce que c'est pour tous les êtres que le Bodhisattva plonge dans le cercle des morts et des renaissances. Et entre la naissance et la mort, il y a la maladie. Si les êtres trouvaient moyen de s'affranchir de tous leurs maux, alors le Bodhisattva ne serait plus jamais malade.
Tout à fait. Donc il y a cette dimension du renoncement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, le renoncement.
Parce que effectivement aussi dans la question des religions, on voit que la plupart des religions sont construites d'une façon double dans leur représentation. Il y a un monde qui est celui dans lequel nous vivons, et puis il y a un autre monde, en général, un autre monde que l'on pourra connaître après la mort. Et la vie religieuse, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie préparatrice ou annonciatrice d'un autre monde. Pour le bouddhisme, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas quelque chose derrière les apparences. Et donc, renoncer au monde, qui effectivement est une thématique dans le bouddhisme, puisqu'on appelle, on a traduit certaines catégories de disciples du Bouddha par l'appellation moine et moniale. Ce sont des personnes qui entrent dans un certain mode de vie et eux-mêmes se disent des renonçants. Mais à quoi renoncent-ils ? Même si apparemment ils vont renoncer à certaines formes sociales, fondamentalement, ils essayent de renoncer à trois choses. Leur frustration, leurs illusions et leurs compulsions. C'est là où est le cœur du bouddhisme. Le bouddhisme ne propose pas de vérité métaphysique, il propose une vérité existentielle. L'être humain vit à travers des modes d'être, des modes que nous pourrons qualifier de névrotiques, où ces thématiques, alors il y a une façon d'éclairer en parlant de frustration, d'illusion, de compulsion, sont là. Et toute la question c'est, est-ce que nous pouvons vivre une autre réalité de la vie dans laquelle il n'y aurait plus de frustration, plus d'illusion et plus de compulsion ? C'est ça l'enjeu même des pratiques bouddhistes.
Et donc il s'agit de changer sa propre constitution de manière à atteindre l'absence de frustration, d'illusion, de compulsion, ou bien d'accepter que ces trois pathologies sont inévitables et alors trouver une forme de sérénité.
Ah non, justement, c'est pas l'inévitabilité. C'est-à-dire que je pense que...
Nous avons un moyen d'action.
Oui, c'est-à-dire que je pense que le... peut-être une des... c'est pour ça aussi que je vous ai proposé ce texte de Freud, parce qu'un des points, on pourrait dire, d'accroche dans la rencontre avec l'Occident, c'est aussi la psychanalyse, où il y a une dimension thérapeutique de rendre compte on pourrait dire, des vicissitudes de la vie humaine. Mais la névrose, d'une certaine manière, est indépassable. Et le présupposé, ou en tout cas le point, l'horizon dans lequel se situe le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il y a un dépassement possible de la névrose. C'est-à-dire que
vous parlez du terme de névrose. Névrose.
Oui, tout à fait. Mais
parce que pour le coup, ça c'est très récent. Donc avant, comment parlait-on de ces symptômes ?
Alors on le déclinait d'autres façons. Moi, tout mon travail au cours des livres, c'est essayer de dire le bouddhisme sans le trahir, mais avec des termes que nous pouvons nous entendre. Alors, bien entendu, quand j'utilise le mot de névrose, ça ne va pas être exactement, il faut être très prudent. Il ne faut pas l'entendre au sens, on pourrait dire, que de lui donner Freud d'une manière très, très claire, mais dans ce sens où nous sommes noués, hein, pour moi aussi la névrose, c'est nous sommes noués dans des fonctionnements, dans des habitus, et dans lequel nous répétons les mêmes syndromes, et de dire est-ce que nous pouvons dépasser cela.
Certains se plaignent de ce que le bouddhisme soit une religion extrêmement sombre, parce qu'il met l'accent sur les souffrances et le malheur. D'habitude, les religions parlent de beauté, d'harmonie, d'extase, de félicité. Mais selon le Bouddha, il nous faut en premier lieu faire l'expérience de la vie telle qu'elle est. Percevoir la vérité de la souffrance, la réalité et l'insatisfaction. Nous ne pouvons ignorer cela au profit de l'examen des seuls aspects glorieux et plaisants de la vie. La quête d'une terre promise, d'une île au trésor, ne conduit qu'à un surcroît de souffrance. Aussi bien toutes les sectes et écoles bouddhistes s'accordent-elles sur le fait que nous devons commencer par regarder en face la réalité de nos situations existentielles. Nous ne pouvons pas commencer par rêver. Ce ne serait qu'une évasion provisoire. Il est impossible de s'évader réellement. Dans le bouddhisme, nous exprimons notre volonté de réalisme par la pratique de la méditation. Celle-ci ne consiste pas à essayer d'atteindre l'extase, la félicité spirituelle ou la tranquillité, ni à tenter de s'améliorer. Elle consiste simplement à créer un espace où il est possible de déployer et défaire nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, nos peurs et nos espoirs cachés. À vrai dire, il est très difficile de ne rien faire. Il nous faut commencer par ne faire à peu près rien. Et notre pratique se développera graduellement. La méditation est un moyen de brasser les névroses de l'esprit et de les utiliser comme partie intégrante de la pratique. Pas plus que le fumier, nous ne jetons ces névroses au loin. Au contraire, nous les répandons sur notre jardin et elles deviennent partie de notre richesse.
Respiration et concentration. Jean-Claude Chaise, psychologue et fondateur de l'Institut de pleine présence, mène la séance.
Et on ne porte pas plus d'attention au battement de notre cœur qu'à la production des pensées.
Depuis un an et demi, ils sont une quarantaine à s'être lancés. Régulièrement, ils se retrouvent pour méditer.
On largue aussi des fardeaux, le fardeau de ce qu'il faut prévoir de faire le lendemain, payer ses factures, etc. Ou alors ressasser le passé ou des choses qu'on a pu faire. Et donc on se pose dans le moment présent. Et là, c'est une libération très forte.
Bonne pour la santé, la méditation ? Oui, pour ce médecin. Bruno Courtaigne pratique la pleine présence. Selon lui, les effets visibles sur le cerveau le sont aussi sur le corps.
Ça peut changer en ce qui concerne des éléments périphériques, des émotions, des conséquences, par exemple des troubles du sommeil, de l'anxiété, des palpitations, des troubles digestifs ou des troubles immunitaires. C'est ce cortège de conséquences physiques, effectivement, qu'on peut viser par la méditation.
J'arrive pas à rester concentré. Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est ma pièce de méditation et comment la décorer.
Tu te fous de moi.
Tu te moques de moi ?
La pièce de méditation se trouve à l'intérieur de toi, c'est ça que tu dois décorer.
Tu parles toujours en slogan de t-shirt.
Ouais, tout juste, et j'en ai un autre pour toi. Tu dois apprendre à choisir tes pensées de la même façon que tu choisis tes vêtements tous les matins. Ça, c'est une faculté que tu peux cultiver. Et tu viens ici avec l'obsession de contrôler ta vie. Travaille sur ton esprit, il n'y a que ça tu devrais essayer de contrôler. Si t'arrives pas à te mettre de tes pensées, t'es pas sorti de l'auberge.
Je m'y emploie.
C'est toi, atterris, c'est ça qui va pas. Arrête de t'y employer, capitule. Va dans le jardin et assieds-toi. Tranquillise ton esprit et observe ce qui se passe. Qu'est-ce que t'attends pour lâcher prise?
Bouddha au pays des célestes est un dieu très très indolent. C'est un bon ventru, un gros joufflu qui fait la sieste 365 jours par an. Avec un large et bon sourire, il contemple heureux son nombril. Mais ce qu'il adore et ce qu'avant tout il désire, c'est qu'en passant lui sourit. Bon Bouddha, Dieu t'odie puisque c'est ton dada. Ah, ah, ah. Bon Bouddha, non jamais on ne te boudera. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Faut pas bouder, bouder, Bouddha, sinon Bouddha, Bouddha, Bouddha. Et lorsque Bouddha, 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 c'est pour nous le grand coup de bambou de boubou de Bouddha.
Ne boudez pas Bouddha, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26 et pour ce troisième temps de notre série d'émissions consacrées aux philosophies chinoises, après le taoïsme lundi, le confucianisme hier, c'est de bouddhisme que nous parlons aujourd'hui, en compagnie d'Éric Romeluer, qui est enseignant bouddhiste dans la tradition zen, qui vient de faire paraître au Seuil « S'asseoir tout simplement », l'art de la méditation zen, qui avait fait paraître aussi, il y a plus ancien, « Le bouddhisme n'existe pas », toujours au Seuil, ainsi que « Le bouddhisme engagé » et « Les bouddhas naissent dans le feu ».
Dieu t'odie puisque c'est ton dada. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bon Bouddha, non jamais on ne te boudera. Ah, ah, ah. Faut pas bouder, bouder, Bouddha, sinon Bouddha, Bouddha, Bouddha. Et lorsque Bouddha, 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 c'est pour nous le grand coup de bambou de boubou de Bouddha.
Alors lorsque Shogyam Trungpa, dont j'ai lu un texte, un extrait du Mythe de la Liberté, La Voix de la Méditation, qui est paru en 76 au Seuil également, affirme que dans le bouddhisme, la volonté de réalisme s'exprime dans la pratique de la méditation, que celle-ci est un moyen de brasser les névroses de l'esprit et de les utiliser comme partie intégrante de la pratique, on est bien loin, me semble-t-il, de ce qu'on nous avait entendu ensuite, hein, l'extrait d'un documentaire, c'est un reportage diffusé sur France 3 Champagne-Ardenne en 2014 sur cette pratique de méditation. On a un médecin disant que bien effectivement la méditation était bonne pour la santé, pour les problèmes gastriques. Puis ensuite un extrait de Manche Prix M de Ryan Murphy où on voit bien ici que l'enseignement est fait de manière très très directive et il faut lâcher prise, ce qui est le meilleur moyen de pas y arriver en fait. Donc j'imagine que ça vous hérisse ça, Éric Romeluer.
Non, pas particulièrement, heureusement. Mais c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux textes. L'un de Shogyam Trungpa, qui est un des plus grands enseignants bouddhistes ayant vécu en Occident, qui était un maître tibétain, mort il y a, je ne sais plus la date, mais il y a environ 25 ans, et qui faisait aussi cet effort de parler à des Occidentaux, et notamment de trouver les mots. Et vous voyez qu'il utilise également le terme de névrose.
Exactement, le vocabulaire.
Le terme de névrose, alors peut-être aussi c'est d'avoir lu Shogyam Trungpa qui fait que je parle de ces termes de névrose, mais ce qui est formidable si vous lisez Shogyam Trungpa, c'est qu'il essaye vraiment de dire que c'est une voie que l'on va vous déconseiller. C'est-à-dire, c'est une voie terrifiante.
La méditation, le bouddhisme,
au sens où elle va mettre à mal tous vos ressorts narcissiques, toutes vos peurs, et va sans cesse les travailler au corps. Et donc effectivement, comme vous le disiez, on a cette vision du bouddhisme comme étant... alors, je pense que cette vision est un peu perdue, mais il y a eu cette vision du bouddhisme comme étant un culte du néant, ou comme le culte de l'indifférence. Et l'indifférence, c'est se mettre à distance. On ne veut plus être touché par. Et justement, le bouddhisme, c'est vraiment au contraire. C'est pas renoncer au monde, mais bien aller dans ce monde et à la fois d'être conscient vraiment de ce qui se passe réellement en nous, dans les ressorts psychologiques. Et donc, il y a vraiment un travail à affronter tout ce que nous ne voudrions pas voir. Et pour ceux qui ont fait un travail psychothérapeutique, savent très bien que même s'il y a beaucoup de joie dans un travail thérapeutique, il y a aussi beaucoup de remise en question, de douleur aussi. Et en même temps, ça apporte beaucoup de joie. Le bouddhisme, c'est la même chose. Donc, il y a un côté très irruptif. Et Shogam Trungpa était vraiment là-dessus, en disant « ce n'est sûrement pas une voie de tout repos ». Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui, on assiste à un mouvement, depuis quelques années, qui vient de pratiquants bouddhistes, notamment de médecins, qui ont voulu... parce que le bouddhisme, c'est aussi répondre à la souffrance. Et que c'est pas forcément... toutes les souffrances, qui à certains ont effectivement des souffrances très, très ancrées, des souffrances psychologiques, mais il y a aussi des souffrances qu'on peut traiter et que aussi quelqu'un qui pratique le bouddhisme a cette envie aussi d'alléger. Et donc des médecins ont essayé de trouver des méthodes qui permettent d'alléger des souffrances. Donc c'est dans des cadres thérapeutiques, ça a commencé aux États-Unis, essentiellement avec un médecin qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui lui-même est bouddhiste, et pour lui c'était une manière d'offrir quelques clés du bouddhisme pour alléger la souffrance. Simplement aujourd'hui, il y a une sorte de, on pourrait dire, d'emballement autour de la méditation, qui pour moi n'est pas une méditation au sens bouddhique.
Alors quelle différence ?
On pourrait dire, alors en étant relativement caricatural, donc il faut prendre quelques précautions, mais on pourrait dire aujourd'hui, la méditation telle qu'elle est véhiculée ou enseignée par ce médecin, c'est finalement de se poser dans un état de tranquillité intérieure. Et de dire finalement, c'est ça la méditation. Pour nous bouddhistes, comme Shogyam Trungpa, de dire, bien sûr, on a besoin, pour voir ce qui se passe en nous, d'un état minimal de tranquillité et d'assurance, mais ce n'est que le départ. C'est-à-dire que vraiment, il y a comme cette vision d'une méditation, tranquillité, et finalement, il n'y a rien d'autre. Et puis de dire, non, il y a quelque chose. C'est le socle à partir duquel on va travailler. Et puis aussi, dans ces reconfigurations actuelles, finalement, il y a une sortie du bouddhisme. Donc finalement, la méditation devient un outil qui est compatible avec tout. Tous les points de vue, tout ce qui est. Or, le bouddhisme est une voie de transformation totale qui va dire, mais que faisons-nous réellement en ce monde et qu'il y a des engagements dans lesquels un bouddhiste ne rentre pas. Et donc, ce n'est pas un moment dans notre vie qui est compatible avec tout et n'importe quoi.
Vous avez prononcé le terme d'engagement. Et il est décisif, hein, vous, d'ailleurs, si on peut vous présenter, c'est aussi comme bouddhiste engagé. De quel engagement s'agit-il véritablement ? Est-ce un engagement à l'égard de soi, comme une sorte d'engagement que l'on se fait, que dans et par la méditation, d'apprendre à dépasser ses souffrances ? Ou un engagement qui peut inclure autrui, d'autres personnes, et qui du coup aurait une vocation, disons, plus politique ? On pense notamment au Dalai Lama, qui est un des premiers bouddhistes qui nous vient à l'imagination, en tout cas pour nous occidentaux. Est-ce qu'il y a un écart énorme entre la pratique du bouddhiste qui médite et le Dalai Lama, ou bien est-ce que l'engagement se retrouve ?
Alors, l'engagement, pour moi, est, on pourrait dire, consubstantiel, pour autant qu'on puisse utiliser le mot de substance, consubstantiel au bouddhisme. Comme je vous disais, il y a ce renoncement aux frustrations, aux désillusions, aux compulsions. Sa part, ça ne peut naître que d'une décision intérieure forte. De dire, à partir d'aujourd'hui, je décide que ma vie se réoriente complètement. Mais comment orienter sa vie ? Et là, le bouddhisme va offrir plusieurs champs. Effectivement, on va dire, on va regarder l'intra individuelle, en disant que nos comportements, nos frustrations, nos illusions, nos compulsions sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va regarder comment nous fonctionnons. Et on va proposer des techniques, des formes méditatives où on va, on pourrait dire, toucher cette dimension psychique ou intra-psychique ou intra-individuelle. Mais en même temps, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des personnes en relation, dans une dimension sociale. Et de dire aussi que les frustrations, les illusions, les compulsions s'actualisent aussi dans nos relations. Donc nécessairement, il y a un engagement à modifier ces relations à autrui. Notamment, le premier engagement bouddhiste, c'est celle de la non-violence. Pas simplement la non-violence que j'ai en moi, parce que tout à chacun a une part, même les plus paisibles et les plus pacifiques ont une dimension de souffrance et aussi de violence, et de dire, est-ce que je peux taire, défaire cette dimension non-violente, mais également dans l'ensemble de mes relations. Donc il y a une dimension nécessairement aussi de s'engager dans un changement dans les relations à autrui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des aspects qu'on pourrait dire éthiques, hein, donc dans le bouddhisme. Et puis, il y a aussi cet aspect, on pourrait dire, peut-être nouveau aujourd'hui dans le bouddhisme, qui n'était pas nécessairement présent il y a encore 100 ou 150 ans, mais de dire aussi que, puisque ça s'intéresse aux souffrances, hein, donc les souffrances peuvent naître à l'intérieur de nous, les souffrances peuvent exister dans l'interrelationnel, mais aussi les souffrances peuvent être socialement produites. Et donc une société peut engendrer de la souffrance. Et donc un bouddhiste, naturellement, est engagé à répondre à sa propre souffrance, à répondre à la souffrance dans les relations qu'il a directement avec des personnes, mais également à poser son regard et à entrer dans la décision de toucher et, si possible, de résoudre aussi des souffrances beaucoup plus fortes, des souffrances sociales.
I think nowadays you see present world problem.
Je pense que notre monde moderne connaît beaucoup de problèmes économiques, politiques, militaires ou raciaux, et que la clé de tous ces problèmes réside dans la réalisation, dans l'unité de chaque être humain, du Nord, du Sud, d'Orient, d'Occident, de telle ou telle race. Ce sont toujours les mêmes gens. Nous sommes tous les mêmes êtres humains. Regardez les membres d'une même famille. L'un est grand, l'autre petit, l'autre est gros, l'autre mince, mais ils font partie de la même famille. C'est un peu ça, vous voyez. Nous sommes tous des êtres humains, tous les mêmes, n'est-ce pas? C'est une chose, mais aujourd'hui, la situation mondiale est très différente. Et nous dépendons énormément les uns des autres. Pour survivre, nous avons besoin des autres. Il n'y a pas d'autre solution. Comment dire? On ne peut pas survivre seul sans les autres. Pour réussir et espérer en un avenir meilleur, nous avons besoin des autres. C'est comme ça. Et de nos jours, la dépendance est grande, non seulement entre les nations, mais aussi de continent à continent. Tout est interdépendant. Je dis souvent que nous devons atteindre, c'est une de mes idées essentielles, un sentiment de responsabilité universelle. Il nous faut considérer tous nos voisins, toutes les nations comme nos frères et nos sœurs. Je suis persuadé que toutes ces traditions, dans leur diversité, peuvent nous aider.
Nous devons atteindre un sentiment de responsabilité universelle, dit le Dalai Lama. Là, on est bien loin de l'exercice méditatif individuel.
Tout à fait. Tout le parcours du Dalai Lama est exemplaire. On n'a pas le temps vraiment aujourd'hui d'en parler. J'invite tous les auditeurs à entrer dans les livres qu'il a pu écrire. Un parcours merveilleux avec aussi derrière la question politique, hein, puisque oui. Dalai Lama, qu'est-ce que c'est qu'un Dalai Lama? C'est, on pourrait dire, le roi temporel du Tibet. Il a dû fuir l'invasion chinoise. Et tout son travail, c'est aussi d'être conscient de la souffrance à la fois d'un peuple, le peuple tibétain, mais également des ressorts qui animent les Chinois. Et donc, ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il y a aucune violence, aucune accusation vis-à-vis des Chinois, qu'il y a toujours une main tendue, ce qui est vraiment très bouddhiste. Mais derrière, c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, un bouddhiste n'est pas simplement quelqu'un qui pense sa vie propre, qui pense le monde qui l'entoure, ses relations de proximité, mais qu'il doit nécessairement intégrer une conscience sociale et, je dirais, politique.
Mais les deux sont-ils compatibles? Cet engagement personnel qui est quand même très éprouvant, qui demande beaucoup d'efforts, vous l'avez dit, et un engagement politique qui lui aussi demande un investissement constant.
Oui, alors peut-être certains le feront pas d'une manière aussi intense, mais je pense que quelques personnes vraiment prennent ça très à cœur. Cet homme qui est le Dalai Lama aujourd'hui a plus de 80 ans et continue ce travail d'une manière indéfectible, donc c'est merveilleux. Mais pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aujourd'hui à cet engouement pour la méditation, cette sortie de la méditation, je suis, moi, assez interrogatif sur ce mouvement. Alors, je trouve formidable qu'on puisse proposer, comme ce médecin dit, de proposer des outils inspirés du bouddhisme, mais à l'origine, c'est... Et comme là, c'était un médecin, hein, donc c'est parti dans un cadre thérapeutique. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnes qui sont en situation de difficulté intérieure, de stress, des personnes qui sont confrontées à des épreuves douloureuses, on leur propose quelques outils. Mais aujourd'hui, on a une sorte de mouvement second, où aujourd'hui, ces méthodes dites méditatives qui s'adressaient à des patients, aujourd'hui s'adressent à tout à chacun, en leur disant, finalement, vous vous asseyez et tout est parfait. Et là, aujourd'hui, arrive une conscience dans le monde bouddhiste très interrogative en se disant, est-ce que cette utilisation ou cette récupération de ces formes méditatives utilisées par, finalement, les consommateurs producteurs, puisque nous sommes dans une société de type néolibéral, est-ce que, finalement, ces outils qui sont utilisés ne visent-ils pas à rendre invisible, finalement, la compétition généralisée de nos sociétés et à utiliser des outils pour rendre possible cette culture de la compétition, de la performance qui est la nôtre. Et je pense que le bouddhisme n'a pas à offrir, on pourrait dire, des outils pour être plus performant ou pour être plus compétitif, mais doit s'interroger. Pourquoi avons-nous besoin de compétition et de performance?
C'est ça, en fait, ce que vous contestez, c'est l'utilisation de la méditation comme une espèce de... Enfin, sa réduction à une séance express de quelques minutes pour se détendre afin d'être plus performant dans la journée qui suit.
Oui, ça, on voit aujourd'hui ce mouvement et cet intérêt, parce qu'effectivement, et là, on ne peut pas critiquer des personnes aujourd'hui, effectivement, on parle de souffrance au travail, c'est quelque chose de très fort, et donc le stress, la souffrance existe et tout à chacun recherche des méthodes. Mais au-delà de ça, on doit se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'offrir des méthodes dites thérapeutiques paramédicales ou est-ce qu'on doit s'interroger sur des réponses peut-être plus sociales, voire plus politiques? Et pour moi, un bouddhiste aujourd'hui est nécessairement quelqu'un, alors je parle à mon nom propre, mais je pense que d'autres personnes aussi seront d'accord avec moi, sans doute peut-être le Dalai Lama, mais qu'on doit aller beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin que les exercices. Alors voilà, mais la question, c'est un peu comme la mode de la philosophie dont on parle aujourd'hui, qui sur un malentendu de promesses de vie meilleure, du coup connaît cette espèce d'essor où les livres de philosophie se vendent plus qu'avant et on y pense et trouver une réponse. C'est sans doute pareil pour le bouddhisme, mais est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce malentendu une occasion peut-être de faire passer le vrai message, ce qu'est le bouddhisme véritablement?
Alors c'est mon espoir. J'ai publié ce livre au Seuil qui s'appelle S'asseoir tout simplement. Je l'ai envoyé à Christophe André, qui est aujourd'hui, on pourrait dire, l'apôtre de la pleine conscience, dont je respecte beaucoup le travail, parce que lui-même est très, très soucieux d'être exact. ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc lui utilise toujours le terme de méditation de pleine conscience et est très soucieux de dire ce n'est pas la méditation bouddhiste traditionnelle. Et vraiment, dans son message, puisqu'il m'a répondu, il m'a écrit une petite lettre en disant, mais pour moi aussi, c'est l'occasion qu'on puisse effectivement toucher et rencontrer quelque chose d'autre du dharma. Et c'est comme ça que c'est, on pourrait dire, les médecins américains qui étaient à l'origine, c'était pour eux comme une sorte de porte d'entrée à cette dimension du bouddhisme qui est fondamentalement une voie de l'amour et de la générosité. Comment nous pouvons vivre quelque chose d'autre qui ne soit plus fondé sur un rapport non violent.
Alors, pour continuer à dissiper les malentendus jusqu'au bout, je vous propose qu'on se quitte. Vous aurez la parole ensuite pendant quelques minutes, mais qu'on entende pour terminer cette discussion le fameux sutra du lotus, qui est donc un sutra très populaire dans le bouddhisme Mahayana et qui prône, on aurait pu commencer par là, mais on va terminer par là, cette notion de l'éveil. Écoutez.
Je te le déclare, Kariputra, les êtres en leur ensemble sont tous mes enfants. Profondément attachés aux plaisirs du monde, ils sont dépourvus de pensée et de sagesse. Les trois mondes exempts de tranquillité sont tout comme une maison en flammes, plein d'une foule de douleurs, effrayant au possible, constamment pourvus des afflictions, de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Maintenant, ces trois mondes sont tous ma possession. Les êtres qui y sont tous mes enfants. Or, cet endroit abonde en péril. Il n'y a que moi seul qui puisse les en sauver. Malgré les admonestations que je leur adresse encore, ils ne les reçoivent pas avec foi. C'est parce que profonds sont leurs attachements et leur avidité dans les souillures du désir. Aussi, par manière d'expédient, je leur prêche les trois véhicules, pour permettre aux êtres de se rendre compte de la douleur des trois mondes. Je révèle et expose la voie qui sort du monde. Certains gagneront l'état d'éveillé par les liens causaux ou d'être d'éveil sans régression. Oui, Kariputra, à l'intention des êtres et à l'aide de cette parabole, je prêche le véhicule unique d'éveillé. Si vous êtes tous capables de recevoir avec foi ces paroles, vous pourrez, tant que vous êtes, réaliser la voie d'éveillé.
Je prêche le véhicule unique d'éveillé. On a là les deux termes clés. Oui. Éric Rommelière, celui du véhicule, le grand véhicule, oui. Ce à quoi qu'on utilise souvent dans le bouddhisme, et le fait d'être éveillé qui est l'état auquel nous aspirons.
Voilà, c'est l'idée que le bouddhisme est une voie donc sur laquelle nous cheminons, avec un horizon. L'horizon étant l'éveil, c'est-à-dire, on va dire, cette libération totale et inconditionnée des frustrations, des illusions et des compulsions. Et ce passage est extrait du Sutra du Lotus, qui est un des textes les plus importants dans les traditions extrême-orientale, notamment en Chine, et on a cité tout à l'heure le Sutra de Vimalakirti, ce sont vraiment deux textes essentiels. Le Sutra du Lotus a cette particularité, c'est qu'il n'offre aucune vérité. Il ne raconte que des histoires, il ne propose aucun concept. Et là, il y a ce passage dans ce texte, où il y a cette phrase qui est considérée dans l'exégèse, puisqu'il y a aussi toute une dimension exégétique dans le bouddhisme, où il dit « Maintenant, ces trois mondes sont tous ma possession. Les êtres qui y sont tous mes enfants. » C'est-à-dire vraiment que cette pratique, c'est aussi de reconnaître nos névroses les plus fondamentales, mais qu'elles ne sont pas simplement les miennes, mais qu'elles sont partagées par tout un chacun, et que entrer dans cette voie, c'est pas simplement résoudre mes propres problèmes, mais c'est nécessairement, en même temps, et toujours d'une manière concomitante, être en rapport avec les autres et de leur offrir des moyens, alors que nous appellerons peut-être salvifiques, c'est des mots peut-être un peu compliqués, mais d'offrir différentes méthodes, des dispositifs. Hein, pour moi, je n'utilise pas le terme de bouddhisme, j'utilise le terme traditionnel de dharma.
L'enseignement.
Dharma, pour moi, la meilleure manière de le traduire, c'est dispositif. C'est-à-dire qu'on propose des méthodes à même de nous transformer.
Pour être en éveil.
Pour aller, alors, pour être dans l'éveil si possible, mais en tout cas, d'aller toujours plus dans cette direction, de cheminer vers ça.
Cheminer vers l'éveil, eh bien on en est loin quand on écoute les Wham qui pourtant parlent eux aussi de réveil, mais comme quoi il y a encore du chemin à parcourir. Merci à vous Éric Cromeluer d'être venu nous parler de bouddhisme aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, S'asseoir tout simplement, si seulement c'était si facile, l'art de la méditation zen aux éditions du Seuil. Il est 10h51, réveillez-vous, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
Il faut savoir que la machine peut servir aux calculs scientifiques de tout ordre. Simulation, dépouillement des données, à la recherche opérationnelle, aux problèmes de stock, de trafic, de file d'attente. À la gestion, la comptabilité.
Que les machines aient pris peu à peu la place des hommes, rien de nouveau là-dedans. Une foule de théories et d'archives est là pour le prouver, comme celle qu'on a entendue qui date de 1963. Alors traduction, calcul, logistique et même plus avec les ordinateurs et les robots maintenant. Mais il y a plus intéressant que cette perspective qui met en rivalité hommes et machines, celle d'étendre le fonctionnement d'une machine aux hommes, et pas seulement au fonctionnement du corps comme l'a fait Descartes, mais même à nos pensées. Dans son essai, Anne Coquelin part ainsi d'un exemple tout simple. Un jour, en pleine conférence, elle a perdu le fil de son exposé et a continué à parler tant bien que mal. Eh bien, bizarrement, personne n'a rien remarqué. Comme si sa pensée était devenue autonome, comme si, telle une machine, elle avait pu effectuer par elle-même tout un travail à l'insu même de la conscience de son auteur. Pensée, mythe, doxa et communication et même paysage, tout pourrait ainsi fonctionner comme une machine. Dans Tess, le film de Polanski, Anne Coquelin voit ainsi l'horizon comme une ligne qui délimite un inconnu que l'on n'investit jamais de sa conscience, qui reste et marche seul comme une machine donc. Mais si tout fonctionne malgré nous, que reste-t-il alors de nous ? Eh bien, cet essai a quelque chose de vertigineux, car à le lire, nous sommes toujours pris dans une sorte de réseau machinique gigantesque qui évacue complètement l'idée que l'on y soit actif. Et pourtant, ces machines, on les fabrique. Et surtout, elles produisent ce qu'Anne Coquelin appelle des restes. Et c'est ce que cet essai a de passionnant. Plutôt que de vouloir remettre de la volonté, de la liberté humaine, il préfère révéler nos secondes natures réflexes. Ces mécanismes jamais artificiels qui produisent des restes, des inattendus qui vivent en nous, mais sans nous, qui viennent de nous, mais nous dépassent.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre du livre.
Les machines dans la tête, c'est Dan Coquelin et c'est paru au PUF.
Un grand merci à vous Géraldine, merci à Éric Cromeluer pour cette émission aujourd'hui. Merci à tous, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette série consacrée aux philosophies chinoises. Demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir Joël Toraval, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, anthropologue et spécialiste de l'histoire de la pensée contemporaine en Chine, qui viendra vous parler, justement, de la pensée chinoise contemporaine. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y attendent téléchargement, podcast, afin d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Et nous vous donnons également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires.